La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Salut, salut! Fun fact, le président chinois Xi Jinping a interdit le dessin animé Winnie l'ourson dans son pays. En effet, ce dernier a été comparé au président lui-même par les internautes. Et lui, il n'était pas content. C'est marrant, pour quelqu'un qui interne des Ouïghours en des camps, je l'aurais pas pensé aussi sensible. Il suffisait d'un ours jaune pour le faire craquer. Le pire, c'est que l'ours jaune en question lui ressemble vraiment. Et j'imagine dans le bureau de Xi Jinping avec ses conseillers, monsieur le président des internautes vous ont comparé à Winnie l'ourson. Ah bon? Mais vous trouvez qu'il me ressemble? Bah c'est pas, non, peut-être, un peu, c'est pas foncièrement faux, mais ça veut dire que je suis gros alors, non ! Interdisez le gros ours jaune, ça se trouve, si tu veux arrêter la guerre en Ukraine, ils ont juste à comparer Poutine à Monsieur Burns dans les Simpsons, et c'est fini. Tu mets des grands écriteaux avec écrit Poutine égale Monsieur Burns, lol, partout en Ukraine, l'autre il est rouge de honte, il retire toutes ses troupes et hop, c'est la fin. Ah, j'aime bien rêver. La preuve que derrière chaque dictateur se cache un être sensible et complètement con surtout. Enfin, je vois pas ce que tu fous en politique si t'es atteint par des remarques de ce niveau. Il n'est pas à la place de Macron, lui. Ici, on a eu des rumeurs que le président couchait avec son premier ministre, ensuite que sa femme serait transsexuelle. Xi Jinping, il aurait déjà fait un AVC à ce niveau-là. Et je terminerai en citant François Mitterrand, oui, pourquoi pas, qui écrivait « Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi ». Vous écoutez Radio Campus Paris. Tout de suite le sommaire. En première partie d'émission, nous serons avec Anouk et Péa qui nous parleront avec leur invité de la Commission européenne qui se trouve devant la Cour de justice de l'Union européenne pour son inaction contre la pêche électrique. En deuxième partie, viendra le tour du Zoom où Laura discutera avec le groupe Dopamoon, et nous enchaînerons avec la chronique de Gauthier et nous clôturerons avec la chronique de Annika. Vous avez le programme, il est 19h03, nous avons encore 55 belles minutes à passer ensemble sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale de 19h.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, je suis avec Laetitia Bisio, qui fait partie de l'association Zoom, qui a largement milité pour faire interdire la pêche électrique. Et je vous laisse avec mes deux collègues, Anouk et Péa. Bonsoir.
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 Laetitia Bisio, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chargée de projet, au sein de l'association Bloom, pas Zoom, depuis 2017. Fondée en 2005 par la militante écologiste Claire Nouvian, cette association milite pour la préservation des océans et de la biodiversité et des écosystèmes marins, et notamment pour une pêche durable écologiquement et humainement. Parmi les objectifs prioritaires de Bloom, la fin des méthodes de pêche dites destructrices, ayant un fort impact sur les habitats marins, à l'image des chaluts pélagiques, des dragues ou bien de la pêche électrique, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, hier mercredi 15 mai, la Commission européenne comparaissait devant le tribunal de première instance de la Cour de justice européenne pour inaction et mauvaise administration dans l'affaire de fonds publics accordés aux Pays-Bas par la Commission pour le développement de la pêche électrique.
Et c'est donc ce qui nous amène à notre première question, parce que c'est un peu important de définir en premier lieu les termes du sujet. Vous avez travaillé, Laetitia Bisio, au sein de votre association Bloom pendant plusieurs mois sur la pêche électrique. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer un peu en quoi est-ce que ça consiste exactement cette pratique ?
Bonsoir, oui, bien sûr. Donc, la pêche électrique, ça fait partie des arts traînants, c'est-à-dire qu'on va traîner sur le fond marin un engin de pêche, donc un filet équipé de chaînes, et on a en plus ajouté des électrodes. Ces électrodes envoient du courant électrique dans le sédiment. Sous le choc électrique, les poissons ont des contractions musculaires qui sont forcées et elles sortent du sédiment. Imaginez un peu comme du pop-corn, hein, les poissons ils sautent du fond marin. Donc, ils ciblaient des poissons plats, comme la sole, qui a une forte valeur marchande, et donc c'est absolument destructeur puisqu'il n'y a pas de sélectivité de la pêche électrique. Il faut imaginer que quand le chalut passe, l'intégralité du fond marin est électrocutée, et donc tous les poissons reçoivent une décharge.
D'accord. Et du coup, quels impacts à court terme et à long terme on peut attendre de cette pêche électrique sur les poissons et sur les écosystèmes marins en général ?
Alors les impacts à court terme, faut savoir que les études scientifiques qui ont été menées sont commanditées par les industriels eux-mêmes qui pratiquent cette pêche électrique. Donc évidemment, les recherches sont orientées. Donc il y a assez peu de recherches qui prouvent que la pêche électrique est néfaste. Néanmoins, on peut quand même en trouver en lisant attentivement leurs publications, même s'ils essayent de masquer ça. Une des premières conséquences, c'est les dos des grands cabillauds qui se brisent sous l'effet du choc électrique. Donc, ils ont des hémorragies internes et la colonne vertébrale cassée. Ensuite, il y a eu des études sur les œufs et les larves. Et ils ont montré qu'il y avait un retard à l'éclosion et une mortalité plus élevée sur les larves. Mais les protocoles sont vraiment discutables, puisqu'ils électrocutent pendant une seconde à deux jours d'intervalle. Mmh. Et puis, ils regardent l'effet. Mmh. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de vraies études. Donc le peu d'études menées montrent qu'il y a quand même un impact. Mmh. Évidemment, il aurait fallu que des chercheurs indépendants mènent ces études, mais il faut des financements. Donc quel est l'intérêt pour un labo de recherche de mener ces études si derrière, enfin, il faut qu'il trouve des financements. Donc c'est-à-dire des fonds européens ou des fonds nationaux, et c'est compliqué. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a assez peu d'études. Donc à court terme, il y a des impacts. À long terme, aujourd'hui encore, malgré l'interdiction de la pêche électrique qui a eu lieu en 2021, la sole a quasiment disparu de la mer du Nord. Aujourd'hui, les pêcheurs qui ciblaient cette espèce ont dû tous se reconvertir à Boulogne. Plus aucun ne pratique le filet qu'ils pratiquaient auparavant. Ils sont passés au casier pour cibler des crustacés ou du bulot. Donc ça montre vraiment qu'il y a eu un impact sur les poissons. Et aujourd'hui, les poissons ne sont pas revenus. Parce qu'on a vraiment saccagé les écosystèmes, les sols, les gros poissons qu'on ciblait pour les commercialiser, les juvéniles qui étaient pêchés, donc les poissons qui n'ont pas atteint la maturité sexuelle, qui ont été rejetés morts à l'eau, et les œufs et les larves qu'on a impactés. Donc c'est vraiment à tous les stades. Donc aujourd'hui c'est compliqué.
D'accord.
Et vous l'avez dit à l'instant, et on y reviendra tout à l'heure, la pêche électrique a donc été interdite en Europe en 2021, mais officiellement, elle avait été interdite dans l'Union européenne dès 1998. Elle l'est toujours dans la plupart des pays du monde, comme en Chine, au Brésil ou aux États-Unis, mais pourtant, et c'est bien là le cœur de cette actualité, entre 2007 et 2019, les Pays-Bas ont donc obtenu plus d'une centaine de dérogations à cette interdiction qui était en vigueur depuis 1998 pour développer la pêche électrique à des fins expérimentales, sous couvert donc de recherches scientifiques. Bloom explique donc que cette pêche soi-disant scientifique cachait, je cite, en réalité des intérêts commerciaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment on peut expliquer le fait que les Pays-Bas aient réussi à obtenir ces dérogations et donc à outrepasser cette interdiction de l'Union européenne ?
Ça a été un tissu de mensonges et de fraudes, en fait, pour obtenir ces dérogations, dès le départ, puisqu'on avait un avis scientifique qui mentionnait qu'il ne fallait pas accorder de dérogation pour la pêche électrique, mais qu'on pouvait mener des recherches. Les Pays-Bas ont mis « Ah, on peut faire des recherches, donc il nous faut des bateaux ». Donc ils sont arrivés à obtenir 5% de dérogation pour la flotte de chalutiers à perche, donc autant dire combien ça représente. En fait, ça représentait, quand on fait les calculs, 15 navires, mais par un calcul magique, ils ont obtenu 22. Donc, j'ai toujours pas compris comment ils avaient fait leur calcul. Et en fait, quand on donne la possibilité à une partie des navires de pratiquer la pêche électrique, les autres sont jaloux, veulent plus de bateaux, enfin, veulent aussi équiper le leur. Et donc, les Pays-Bas ont trouvé des subterfuges pour pouvoir équiper plus de navires. Donc, ils ont dit, il nous faut plus de bateaux parce qu'on veut faire plus de science, plus de recherche. Et donc, ils ont fait appel à des articles scientifiques qui mentionnent qu'on peut pratiquer la pêche électrique à des fins de recherche scientifique. En réalité, c'est la pêche pour faire des comptages, ce genre de choses, hein, pas pour les vendre commercialement. Et donc, ils ont obtenu, de cette manière-là, 20 bateaux de plus. Et puis, en 2014, il y avait la moitié de la flotte qui était équipée, donc c'était encore problématique, parce que l'autre moitié avait des problèmes d'efficacité, parce que les poissons disparaissent. Et donc, ils ont fait appel à un autre article pour faire un projet pilote. Et donc, ils ont obtenu 42 autres dérogations pour étudier l'impact de l'obligation de débarquement, c'est-à-dire que les pêcheurs doivent garder le poisson à bord et ne pas le rejeter. Donc, vous ne voyez pas le lien avec la pêche électrique, c'est normal, il n'y en a pas. C'était un projet pilote complètement fictif qui a permis d'avoir 84 bateaux. Et ils ne se sont pas arrêtés là parce que, comme c'était chaque État membre qui pouvait obtenir 5% de leur flotte de chalutiers à perche, ils sont allés au Royaume-Uni, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés en Belgique. Donc c'est pour ça qu'on arrive au final à un peu plus d'une centaine de navires.
D'accord.
Donc tout ça, c'était un tissu de fraude et de mensonges. Et moi, quand je suis arrivée en 2017 pour travailler sur la pêche électrique, je ne pensais pas découvrir autant de mensonges et de fraudes, mais simplement qu'une technique néfaste. Et donc on a, à ce moment-là, dénoncé ces fraudes. Et ça a été là un véritable bras de fer dont on va parler par la suite.
Et du coup, moi, je me demandais juste avant, c'était quoi l'intérêt scientifique supposé d'autoriser la pêche électrique ? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à montrer scientifiquement ? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à démontrer ?
Ah bah rien, ils cherchaient à économiser du carburant. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le prix du gasoil dans les années 2005-2006 avait fortement augmenté. Et il faut savoir que le chalutier à perche, c'est une technique où on gratte le fond, on traîne un engin. Donc c'est lourd, c'est très énergivore. Mm-hmm. Et les quantités de carburant qui sont cramées sont juste énormes. Mmh. Donc, il fallait faire des économies de carburant. Il fallait reconvertir la flotte. Comment faire ? Bah, on pouvait se tourner vers des techniques moins impactantes, vers la pêche artisanale. Mmh. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'était au contraire de rendre les techniques plus efficaces pour pouvoir capturer les poissons en premier.
D'accord.
Et donc, c'est la raison de la pêche électrique. Donc, les études scientifiques qui sont parues au départ, c'était de savoir combien de carburant on pouvait économiser.
Ça, le but. D'accord.
Voilà, c'est le but de exactement.
Okay. D'accord. Et du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rejoint Bloom en 2017 et à ce moment-là, Bloom a lancé une campagne pour obtenir l'interdiction de la pêche électrique en portant plainte contre les Pays-Bas auprès de la Commission européenne pour, je cite, « allocation illégale et injustifiée de dérogation ». Et vous l'avez également dit tout à l'heure, après 2 ans de bataille juridique, vous avez finalement réussi à obtenir l'interdiction totale et définitive de la pêche électrique, mesure qui deviendra effective le 1er juillet 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à obtenir cette victoire ? Vous l'avez déjà un petit peu dit. Et est-ce que Bloom était entouré d'autres acteurs ou associations à l'échelle européenne ?
Oui, donc on a lancé cette plainte. C'était un peu symbolique de lancer une plainte pour entamer une campagne, avec une pétition également qui appelait les citoyens à nous rejoindre. Donc c'est hyper important, je précise ici, quand vous signez une pétition, en tout cas celle de Bloom, on sait quoi en faire et vraiment c'est hyper utile parce que quand on représente plusieurs centaines de milliers de citoyens dans les institutions, notamment au Parlement européen, on n'est pas reçu de la même manière que lorsqu'on est seul. Mmh. Donc voilà, c'est hyper important de signer des pétitions et de également interpeller sur les réseaux sociaux quand on lance des messages. Et donc, on a signalé à la Commission européenne que les Pays-Bas avaient fraudé et on espérait avoir une réponse. Et en fait, non. Mais en parallèle, il y avait un enjeu politique énorme, à savoir le règlement mesures techniques, donc qui régule en fait toutes les mesures techniques, donc la taille des maillages, ce genre de choses, et les engins de pêche, allaient être réformés. Et donc nous, on arrive un peu après, pas après la bataille, parce qu'on l'a menée, mais on arrive assez tard, puisque le règlement avait déjà été publié en 2016. Mmh. Et donc il fallait... Et dans ce règlement, en fait, là, c'était carrément une autorisation de la pêche électrique. C'était plus une dérogation, on inscrivait vraiment l'autorisation pour 5%. Des bateaux. Et on a du coup mené un bras de fer énorme avec le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres pour pouvoir gagner ce combat. Donc il a fallu mobiliser énormément de personnes, donc des citoyens, mais pas seulement. On a aussi eu les pêcheurs qui nous ont rejoints, des poissonniers, des chefs, et notamment des chefs étoilés comme Coutenceau qui avait fait un manifeste pour appeler à ne pas travailler le poisson issu de la pêche électrique. Mmh. On a eu la grande distribution aussi qui nous avait rejoints en mentionnant qu'ils n'allaient pas commercialiser ce genre de produits. Mmh. Et on a mené une campagne vraiment de terrain au Parlement européen où on est allé chercher chaque vote, chaque élu, pour leur expliquer à quel point la pêche électrique c'était néfaste, avec des pêcheurs, parce que les pêcheurs étaient aussi concernés par cette compétition quelque part illégale entre un engin hyper efficace et eux, leurs arts dormants, hein, c'est-à-dire un filet qu'on pose, on attend que le poisson se prenne dedans et on le récupère. Mmh. Et en fait, on a eu du soutien de pas que de pêcheurs français, mais aussi britanniques, néerlandais, belges. Et c'est toute cette force mise ensemble qui fait qu'on avait gagné le vote au Parlement européen le 16 janvier 2018. Et à l'issue de ça, c'est pas du tout terminé, parce qu'après, il y avait ce qu'on appelle un trilogue. Donc, c'est des négociations entre les États membres, la Commission et le Parlement. Et chacun avait une position différente. Vous aviez le Parlement qui voulait l'interdiction totale, la Commission qui voulait l'autoriser, et vous aviez les États membres qui voulaient un statu quo, voulaient rien changer à la réglementation. Donc, là-dedans, il fallait arriver à trouver un compromis. Mais nous, le seul compromis possible, c'était une interdiction. Ouais. Et puis, le plus rapidement possible, parce que ça urge, en fait. Il n'y avait plus de poissons en mer du Nord. Mmh. Il n'y en a toujours plus, d'ailleurs. Et les pêcheurs nous disaient que si ce n'était pas interdit rapidement, leur activité allait cesser et qu'ils feraient faillite. Et on a obtenu, effectivement, grâce à maintenu la pression, et notamment les médias, quand ils s'emparent du sujet, ça c'est hyper important de parler d'un sujet pour pouvoir sensibiliser à la fois les citoyens, mais aussi les politiques, à gagner ce combat. Donc on a gagné le combat le 13 février 2019, avec un trilogue qui était pour cette interdiction de la pêche électrique.
Et on continue d'en parler après la pause musicale. Tout de suite, c'est Dans mon quartier de Rive Cohen.
On laisse les armes à l'entrée, les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas, on laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier, on parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, n'ont pas l'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies, les enfants claquent les doigts car la musique c'est la loi. La 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 la. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Au coucher du soleil, on court sous l'horizon, on marche sous la planète comme dans sa maison. Et ici on ne passeport, c'était rien. Dans mon quartier, vous êtes tous invités, mais quand même, ce quartier faudra l'inventer.
Et c'était Dans mon quartier de Rive Cohen.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et nous nous retrouvons toujours avec Laetitia Bisio de l'association Bloom. Nous parlons de l'interdiction de la pêche électrique et je laisse la parole à mes deux collègues Anouk et Péa.
On reprend cette discussion. Je rappelle très rapidement, voilà, on discutait du fait que les Pays-Bas avaient donc pratiqué la pêche électrique pendant de nombreuses années en bénéficiant de dérogations de la part de l'Europe. Vous expliquiez à l'instant comment est-ce que l'association Bloom avait réussi à obtenir l'interdiction définitive de la pêche électrique en Europe en 2021. Et alors, malgré cette victoire, qui est donc une belle victoire déjà, mais vous poursuivez quand même le combat et vous réclamez la condamnation des Pays-Bas. C'est donc ça maintenant dont il s'agit, au-delà de l'interdiction, et le remboursement des sommes indues. Et en fait, voilà, là, les dernières analyses, justement, des bénéficiaires, des bénéfices qui ont été retirés par les Pays-Bas de ces dérogations-là, ont révélé que plus de 20 millions d'euros ont été alloués aux Pays-Bas, justement, pour cette pêche électrique expérimentale. Bloom, l'association, explique dans un communiqué de presse récent que, parle en fait de conflit d'intérêts pour désigner cette situation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu aussi, encore une fois, quelle est la teneur de ce conflit d'intérêts dans ce cas précis?
Oui, alors, en fait, on a déjà déposé plusieurs plaintes sur le sujet de la pêche électrique. D'abord sur les licences, hein, c'était la toute première, celle du 2 novembre 2017. Mais malgré Voilà, on a mis une pression colossale sur la commission. On avait dû saisir la médiatrice européenne. Donc, c'est elle qui est garante du droit et qui a obligé la commission à répondre et à reconnaître le fait que les licences étaient illégales. Mais la commission a décidé de ne pas poursuivre. En fait, elle a proposé d'ouvrir une procédure d'infraction, mais elle a laissé le dossier mourir jusqu'à que la pêche électrique soit interdite et qu'il n'y ait plus de licence. Et puis, elle a conclu que bah, du coup, les Pays-Bas étaient conformes avec le droit européen parce qu'il n'y avait plus de pêche électrique, évidemment. Et donc, on a en parallèle de ça, on s'est effectivement intéressé à la question des subventions allouées à la pêche électrique et... on avait d'abord saisi ce qu'on appelle l'OLAF, Office de lutte anti-fraude, qui est l'organe de la commission chargé d'enquêter, de vérifier au niveau des subventions s'il n'y avait pas de fraude. Et quand on a déposé notre épais dossier bien argumenté avec des preuves qu'il y avait effectivement des subventions allouées à la pêche électrique, l'OLAF ne nous a jamais répondu et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de réponse de l'OLAF. Mais on a appris qu'elle avait classé l'affaire par la presse néerlandaise et les lobbies eux-mêmes ont dit bah, « Regardez, en fait, boum, ment, il n'y a jamais eu de subvention allouée à la pêche électrique. » et donc, en enquêtant, en essayant de comprendre pourquoi, en fait, donc, le conflit d'intérêts en question, on s'est rendu compte que la personne qui était en charge d'enquêter sur ce dossier était en fait la personne qui était chef d'unité à la DG Marée, donc la Direction Générale des Pêches à la Commission européenne, au moment même où la pêche électrique explosait en nombre.
Okay.
Et son adjoint était néerlandais et avait été attaché pêche des Pays-Bas, donc qui représentait le ministère néerlandais au niveau du Conseil de l'Union.
Okay.
Donc il y avait... Voilà, c'était bon, on va pas enquêter sur ses propres méfaits, hein, on va classer l'affaire, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on s'est retrouvé bah, avec une bataille qu'on n'est pas arrivé à mener. Mais quand on a obtenu de la Commission européenne la reconnaissance qu'en fait les licences étaient illégales, donc on a pu saisir un autre organe de la Commission, non pas responsable de la pêche, mais de la concurrence, mais pas nous, Bloom. Parce qu'on n'a pas d'intérêt à agir, c'est-à-dire qu'on n'a pas été mis en concurrence avec des navires de pêche électrique. Donc, il a fallu faire appel à des acteurs économiques, donc des pêcheurs. Donc, ce sont les pêcheurs qui portent cette plainte avec une association de pêcheurs qui s'appelle LIFE, de petits pêcheurs européens. Et suite à ça, bah, la commission a continué à faire des refus d'obstacles et à ne pas vouloir instruire la plainte. Et donc, ça a été encore une bataille de plusieurs années pour, à la fin... attaquer la commission pour carence. Voilà, donc c'est ce qui nous amenait hier à l'audience.
D'accord, donc c'est vraiment pour faire déjà accepter la plainte pour que ça passe ensuite au tribunal, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et du coup, donc, c'est ce que vous venez d'expliquer. Donc vous avez déposé un recours en carence devant la Cour de justice de l'Union européenne, pour laquelle comparaissait justement, comme vous le rappeliez, la Commission européenne hier mercredi 15 mai pour s'expliquer sur ces subventions allouées à la pêche électrique. Le jugement sera rendu dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quelles sont vos attentes, l'association Bloom, concernant les conclusions de ce jugement et les éventuelles condamnations des Pays-Bas et de la Commission?
Déjà, donc, cette audience avait déjà une part de symbole. C'est un peu aussi le début de la réparation et de se dire « enfin, on va pouvoir être entendu ». Et on ne va pas juste classer les affaires en prétendant que circuler, il n'y a rien à voir et qu'il n'y a jamais eu de subvention illégale. Donc déjà, c'était voilà, un peu un moment solennel au moment où les cinq juges ont ouvert l'audience et la commission a dû répondre aux juges, et notamment le juge rapporteur qui a extrêmement bien travaillé le dossier, qui posait des questions très pertinentes et qui a essayé un peu de coincer la commission dans ses contradictions. Donc
Vous étiez présent à l'audience,
oui,
du coup?
Oui, oui, j'étais présente avec une collègue et un pêcheur, un représentant de pêcheur.
D'accord.
Et avec les deux avocats, donc c'était eux qui plaidaient. Et en parallèle, la commission, eux, ils étaient six, donc il y avait trois personnes qui plaidaient et trois autres personnes en support qui vérifiaient pour pouvoir les alimenter en direct. Et donc voilà, donc c'est au-delà de ce processus de réparation qui commence, on espère vraiment que la commission sera forcée d'instruire cette plainte. Et c'est, en fait, il n'y a que la Commission européenne qui peut sanctionner les Pays-Bas. Mmh. La Cour de justice ne peut pas, elle peut juste obliger la Commission à le faire. D'accord. Donc nous, on espère qu'elle obligera la Commission à se saisir du dossier et à considérer vraiment notre plainte. Mmh. Pour qu'ensuite elle aboutisse à une condamnation des Pays-Bas et le remboursement des aides et une réparation pour les pêcheurs, parce que beaucoup aujourd'hui ont fait faillite. La criée de Dunkerque a fait faillite. Tous les pêcheurs au filet ont fait faillite ou se sont reconvertis, comme je l'ai dit précédemment.
Et du coup, c'est la Cour de justice qui doit contraindre la Commission à faire appliquer ces sanctions-là, c'est ça ?
C'est la Cour de justice qui doit, alors pas les sanctions, mais qui l'oblige à instruire la plainte. À D'accord. enquêter.
D'accord, ok.
Parce qu'en fait, elle a juste dit non, il n'y a pas de subvention illégale. Non, c'est pas des aides d'État. Et puis, dans son argumentaire, c'était quand même assez hallucinant. Le représentant nous a expliqué, l'avocat, qu'il n'y avait pas de continuum dans le droit européen. Et donc, c'était compartimenté en trois segments. Et que c'est pas parce qu'on enfreint un règlement que par définition, on enfreint un autre règlement. Donc, on peut avoir des subventions. Pour une technique de pêche interdite. C'est ce qui soutenait Mordicus.
Ouais.
C'était assez hallucinant quand même d'entendre ça. Donc voilà, si vous pratiquez une pêche interdite, vous pouvez avoir des subventions. Il n'y a pas de souci. Parce que les règlements sont compartimentés.
D'accord.
C'est grave quand même.
Un fonctionnement européen un peu complexe qui là a l'air de déboucher sur quelque chose. Enfin, en tout cas, vous le verrez, j'imagine, avec l'association Bloom qui a concentré beaucoup de ses efforts là-dessus. Mais plus largement, c'est une association qui condamne dans l'ensemble la pêche industrielle et ses impacts sur la biodiversité marine au-delà de ce simple exemple des Pays-Bas. Et puis qui parle aussi beaucoup de l'économie du secteur et de la situation des professionnels du secteur, notamment des pêcheurs artisans. Est-ce que vous pourriez aussi nous en dire un peu plus, là, plus largement pour élargir un peu sur les impacts de la pêche industrielle sur ce secteur-là et sur les professionnels du secteur.
La pêche industrielle a des conséquences à la fois sur les écosystèmes, les populations de poissons, les fonds marins. Quand on racle les fonds, derrière, c'est un peu un cimetière qui est laissé, quoi, avec en plus des rejets qui sont assez importants en général. Donc ça a des conséquences sur les écosystèmes, mais aussi sur les pêcheurs. Notamment quand les navires viennent près des côtes. On avait le cas cet hiver, j'étais allée à Boulogne, un pêcheur m'avait témoigné le fait qu'un navire de 88 mètres pêchait dans la même zone que lui, dans une aire marine protégée, alors qu'on chalute. Hein, c'est quand même assez contradictoire. Et il a pêché 100 tonnes. Donc 100 000 kilos, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Moi-même, je n'arrive pas à imaginer ce que ça représente. Donc 100 000 kilos en 30 minutes. Il me disait que c'était ce qu'il pêchait lui en 25 ans de pêche. Lui, il le pêchait en 30 minutes. Donc il y a forcément des conséquences sur les écosystèmes et sur les autres pêcheurs qui n'ont d'une part pas accès du coup au quota, puisque tout leur est donné. Puis ensuite, ils récupèrent des miettes et un océan en mauvaise santé. Cette pêche industrielle est problématique. Ouais.
Très bien. Il ne nous reste plus que 30 secondes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia Bizeux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes de l'association Bloom et vous interveniez pour parler de l'interdiction de la pêche électrique par la Commission européenne. Merci beaucoup.
Et oui, merci beaucoup Laetitia Bizeux d'avoir été au micro de la matinale et merci à Anouk et Péa. Tout de suite, on écoute Un chat dans la nuit de Dopamoon.
Je brasse du vent seul sur
C'était Chat dans la nuit de Dopamoun sur Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Il est 19h33 et nous sommes en compagnie de Laura qui reçoit le groupe Dopamoun dont on vient d'écouter un des titres. Nous recevons deux de ses membres, Francesca et Virgile. Salut, salut, bonsoir tout le
salut.
Monde.
Salut,
bonsoir.
Merci de nous avoir invités.
Pas de soucis, je vous laisse avec Laura.
Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est quoi Dopamoun ou c'est qui ? C'est un concentré de vitamine C aux influences mondiales entre bossa nova, disco, afro, new wave. Finalement une musique très organique avec un groove psychédélique. C'est le shot d'adrénaline qu'on a besoin les soirs de solitude, c'est nos vacances d'été qui ne s'arrêteront jamais où l'impossible devient possible. C'est le cocktail à la fois branché, irrévérencieux mais qui se prend pas trop au sérieux et te requinque en une gorgée. Ce mélange à la fois doux et pimenté, donc dans un tourbillon de joie est orchestré par Francesca et Virgile. Il collabore avec de nombreux artistes originaires du monde entier, l'Inde, le Brésil, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis, le Canada et la France. Ils ont sorti leur premier album en 2020, Dopamoun. Aujourd'hui, ils reviennent pour présenter leur prochain album qui sort le 23 mai, Dopalova. Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Très bien.
Très bien. Alors, ma première question, comment vous êtes rencontrés ?
C'est Guillaume Leroyer qui a fait mon site, qui nous a mis en contact.
Bah, j'avais pas la voilà. réponse.
Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il a pensé qu'on pouvait faire des trucs ensemble et voilà, ça a pris.
Ok, et donc c'était quelle époque, quelle année ?
Je sais plus, mais genre je dirais peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. On s'est on a commencé à faire de la musique un peu à droite, à gauche, et puis en échangeant des maquettes, des trucs. Et puis c'est de là après qu'est venue l'idée un peu de Dopamoun, mais c'était il n'y avait pas vraiment de nom de projet, ni on savait pas vraiment où on allait, ce qu'on allait faire, ni comment vraiment on irait. Mais voilà, on a commencé à échanger. Des démos, moi je crois que c'était des trucs que j'avais fait vraiment genre en vacances, genre sur GarageBand vraiment, ou à l'iPhone vraiment.
Ou sur le téléphone, ouais.
Il y a beaucoup de téléphones, beaucoup d'iPhone, voilà.
Ok, et j'avais une autre question par rapport à votre nom, pourquoi Dopamoun ?
La raison pour laquelle on a choisi ce nom, c'est parce que c'est facile à retenir. Il y a un côté bubblegum, un peu rose, un peu fluo. Moi personnellement, je suis assez friand de contractions de mots qui veulent un peu tout et rien dire. Et il y avait un côté dopamine pour le côté.
Le côté addictif ouais, voilà, qui est un peu dans la musique.
Voilà, il y avait le côté dopamine et puis le côté un peu. Peut-être qu'il y a un peu moins ce côté-là dans la musique maintenant, mais dans le premier album, il y avait un côté un peu plus cosmique. Et donc du coup, Dopamoun, il y avait un côté, c'est une musique qui vient du cosmos, qui nous envoie dans le cosmos et puis qui nous requinque, quoi, qui nous donne envie d'avoir plein d'énergie. Quoi.
Ouais, ouais, d'avoir le sourire, tout.
Et de planer, quoi.
Ouais.
Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre nouvel album ? Quelles sont les couleurs, les sonorités ? D'où ça vient tout ça ? Comment vous l'avez créé ?
Comment on l'a créé ? Déjà j'ai commencé à faire les batteries. Après Francesca, nous a fait plusieurs basses. Après c'est beaucoup d'aller-retour, beaucoup de télépathie aussi.
Ouais, c'est beaucoup d'échanges, c'est un gros ping-pong en fait. Ouais, voilà, ça peut partir d'une idée faite sur GarageBand, sur l'iPhone. Parfois, je passe juste chez Virgile et en fait, on a juste une sorte de moodboard où on s'est dit, tiens, faudrait prépare une rythmique qui est, je sais pas, à 125 BPM avec un truc syncopé. Voilà, ça peut partir vraiment juste d'une boucle de drums qui est assez funky. Et après, on crée par-dessus souvent des basses, puis des guitares. Et après, on a nos différents segments dans la chanson et on construit étage par étage comme ça. Et après intervient souvent la phase après qui arrive après,
avec
qui est
les
de
voix,
voilà,
ouais.
trouver des gens qui interprètent, parce que nous on n'est pas chanteurs. Et donc là voilà, c'est on part un peu à la pêche quand on se dit voilà, qui est-ce qu'on verrait bien sur ça, est-ce que la chanson nous semble plus masculine, plus féminine, est-ce qu'on verrait quelqu'un qui vient plus d'Asie ou des États-Unis ou d'Europe, on réfléchit à des choses comme ça, puis après on envoie des messages, un peu des bouteilles à la mer, et puis il y a des gens qui répondent, et puis après si ça match, on essaye de, on se fait des allers-retours, pareil, une sorte de brief, et puis voilà.
D'accord, donc c'est plutôt des artistes que vous recherchez par exemple sur les réseaux sociaux ou
Ouais, voilà, c'est sur les réseaux sociaux ou les réseaux au sens voilà, les gens qu'on peut connaître d'amis ou des gens avec qui on a bossé, qu'on déjà voilà, donc
ça c'est plus son boulot d'ailleurs. Moi je suis plus dans le studio et lui il est plus à chercher les gens, à chercher les chanteurs.
Les contacts, enfin l'intermédiaire, ouais,
ouais.
Quoi.
Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font à distance, en fait. Voilà, Virgile, il a plutôt sa navette spatiale, son studio dans lequel il programme beaucoup de choses. Il y a quand même une grosse partie où on fait tous les deux dans le studio. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est faite à distance aussi. Aussi, d'ailleurs, pour les artistes qui chantent sur l'album, parce que bah, parfois, ils sont basés à l'autre bout du monde, donc on ne les fait pas venir, ou on n'y va pas, malheureusement. Et donc, on s'échange des pistes. Voilà. Et puis voilà, il y a un gros travail de direction artistique, d'échange en fait, voilà, un peu de casting, voilà. Là, on sort un peu de notre rôle d'artiste et on devient un peu plus metteur en scène et on fait de la direction presque d'acteur. Voilà, on dit sur ce truc-là, sois plus souriant, sur ce truc-là, sois plus intense. Là, laisse plus traîner. Est-ce que ce couplet, tu peux le rendre un peu moins
plus sexy ou plus théâtral,
voilà.
Voilà, ouais.
Et c'est une volonté de vouloir absolument travailler à deux, parce que au final vous auriez pu travailler avec une tierce personne pour vous aider justement à fluidifier davantage.
Bah, c'est un peu le cas avec le mixeur.
Ouais, alors sur le premier album on avait un réalisateur, Julien Plaisir de France, voilà, qui bosse avec plein de projets très cool en électro, en variété française, qui nous a fait accoucher quand même du son un peu, qui nous a quand même pas mal aidé.
Ouais.
Voilà, on le remercie, on lui fait coucou parce qu'il nous a beaucoup aidé sur le premier album. Sur le second album, au final, on était plus serein parce qu'on avait déjà un peu plus notre formule, mais en tout cas, on savait un peu plus où on voulait aller, c'était plus facile pour nous, et puis on avance plus vite à deux qu'à trois, voilà. Par contre, effectivement, la dernière étape, le mix puis le mastering, on a confié à des professionnels, à des gens pareils qu'on connaît, qu'on aime bien et qui ont bien bossé, qui ont permis de rendre le projet plus sonique, quoi, plus
facile,
plus facile à écouter ouais. Parce que c'est vrai que nous, quand on produit, on a tendance à mettre nos petits automatismes, nos petites erreurs, à pas voir certains trucs, et d'avoir une oreille fraîche qui arrive 18 mois après, qui nous dit voilà, ce truc là on n'entend pas bien la fréquence, ce truc là il est un peu faux, voilà, on corrige des petits trucs, mais après on essaye quand même de garder le côté instinctif, le côté un peu primitif de notre musique, et puis voilà, tout est pas nickel, gommé, quoi, non plus, quoi, mais voilà, c'est, faut respecter.
Ouais, on a dû bien le rendre fou, le mixeur.
On aime l'artisanal.
Ouais. Ouais, ouais.
Voilà.
Et alors, quelles sont vos influences musicales, justement, par rapport à ces morceaux?
Je pense que, autant Francesca que moi, on aime tout. On aime toutes les musiques, quoi. Sauf si c'est peut-être les trucs trop extrêmes, genre les gros hardcore metal ou je sais pas quoi. Sinon, c'est un peu ce qu'il y a dans l'album, quoi. Il y a un peu des ingrédients de plein de musiques différentes. Et nous, on s'amuse avec ça, quoi. C'est un peu comme du sampling, mais on se sample nous-mêmes, tu vois.
Ouais, on sample nos influences, nos amours de jeunesse, d'adolescence, ou parfois même des choses qu'on a écoutées récemment. Voilà, il y a des petits tricks de production qu'on va prendre je dis n'importe quoi, mais limite, parfois on s'échange des trucs, on se dit tiens, regarde cette rythmique sur un truc de Dua Lipa ou de. Je sais pas, ou de Sophie Tucker ou de Lizzo. Voilà, on écoute de la pop internationale du moment, mais après, moi, c'est vrai que ma culture au départ, c'est plutôt une culture 90s parce que j'ai écouté Primal Scream. Les Beastie Boys, Daft Punk, Chemical Brothers, voilà, des gens qui ont qui eux-mêmes m'ont permis de découvrir plein de choses, du reggae, du dub, de la disco, du rock psychédélique, de la country, de la techno, de la house de Chicago, plein de choses. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien dans ces projets des années 90, ce truc un peu hybride, crossover. Et nous, on a mis ça un peu à notre sauce de maintenant, voilà, mais après on n'a pas un mood board ou un cahier des charges très précis, mais en tout cas voilà, on écoute vraiment des Beatles jusqu'à Doja Cat, quoi.
Ah ouais, ouais.
Ça peut aller.
Ouais. Sacré mélange. Ouais. Et pourtant, c'est tellement fluide, en fait, sur l'album. C'est. Ben, enfin, il y a tellement d'influences, et je me dis, vous en avez fait un concentré qu'on appelle un peu aujourd'hui voilà, la French Touch.
Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que je pense que l'album, on pourrait le catégoriser à French Touch parce qu'il y a ce côté. Je pense qu'il y a un son quand même qui est français, qui est parisien, mine de rien.
Pas fait.
Je pense, mais on n'a pas fait exprès. c'est parce qu'on est français, que voilà, on vit à Paris. Enfin, moi, je suis pas parisien de base, mais j'y ai vécu plus longtemps maintenant qu'ailleurs, donc on peut dire que je suis parisien, je pense. Mais je pense effectivement que on a ce truc French Touch, et ce qui est drôle en même temps, c'est que, parce que la French Touch, au final, ça veut un peu tout et rien dire, parce que ils étaient inspirés par la Library Music, le premier album de Phoenix, il y a des. C'est inspiré des Birds ou de Steely Dan ou Daft Punk, c'est pas mal de funk, de house, style Motown, on pourrait dire, voilà. Et pourtant, c'est pas de la musique française, la French Touch, c'est nourri de trucs, d'influences étrangères. Et nous, je pense que c'est un peu ça. On a un peu gardé cet ADN de French Touch, de se nourrir un peu de choses mondiales, un peu globalisées, et d'en faire notre propre son. Par contre, ce qui est marrant, effectivement, on s'est fait la réflexion un peu a posteriori, et c'était pas un postulat ni un truc de base, mais c'est qu'au final, on pourrait dire que c'est une sorte d'album de French Touch ou d'électro, mais il n'y a pas de synthé, c'est pas un album de. C'est un album d'ensemble, mais c'est pas un album de dance ou un album d'électro au sens synthétique du terme, quoi.
Ouais, il n'y a aucun synthé dans l'album, hein, je crois.
Merci pour cette bonne définition de votre musique. Et en termes de messages que vous faites passer justement sur vos morceaux, c'est quoi la vibes
C'est l'amour, quoi. C'est faut la fête, le soleil. Les cocotiers,
y a un côté assez assez naïf, assez hédoniste, assez psychédélique, assez inclusif, plutôt positif, voilà. On fait de la musique pour se faire déjà plaisir à nous-mêmes et après faire plaisir aux gens, tant mieux s'ils kiffent, s'ils ont envie de danser, d'écouter, c'est très très bien. Et c'est vrai que souvent la musique qu'on voit ou qui est produite en ce moment est quand même souvent un peu mélancolique ou dure ou noire. Et c'est vrai que nous, on a pris un peu ce contre-pied-là. Et donc voilà, en ce sens, ça peut faire référence à des chansons de, je sais pas, comme Come Together de Primal Scream sur Screamadelica, qui a ce côté presque gospel au sens presque évangélique, voilà, c'est épiphanique. En tout cas, voilà, il y a un côté pas neuneux, mais on est là pour vivre. La vie peut être belle parfois, ou alors effectivement, tout à l'heure je citais les Beatles, je sais pas, Magical Mystery Tour ou des choses comme ça. Voilà. Au final, moi je me nourris d'influences comme ça, et je pense qu'avec Virgile, on est plutôt des gens qui sont avenants, qui sont souriants, et on se marre en studio en fait. Et voilà, on fait ça pour triper, pour passer du bon moment. Et je pense que c'est communicatif, et c'est ça qui après marche dans la musique.
Justement, sur ces belles paroles, merci beaucoup d'être venu dans ce studio. On a hâte d'écouter ce nouvel album qui, je le rappelle, sort le 23 mai.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Francesca et Virgile de Dopamoon. Vous écoutez la matinale de Radio Campus, il est 19h46.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et il est venu le temps de la chronique de Akina. Bonsoir Akina, ça va ?
Bonsoir. Je commence. Alors, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que les Jeux Olympiques approchent. Ce n'est pas comme si on en parlait tout le temps. Est-ce que la flamme olympique, ça vous dit quelque chose ? Mais oui, cette année, il doit se dérouler en Île-de-France. Les Franciliens en sont ravis. Après tout, qui n'a pas envie de se faire jeter de sa résidence Crous pour laisser sa place à des athlètes obligés de faire des cagnottes pour pouvoir financer leur préparation ? Enfin bon, ce n'est pas vraiment le sujet des JO, n'est-ce pas ? Ce qui compte, c'est la communion entre des milliers de gens, de pays différents, tous réunis autour du sport, vous pensez ? Non, de la détestation commune internationale des JO. Dans les divers pays où les Jeux Olympiques ont eu lieu, comme la Corée du Sud, le Japon, le Brésil ou la France, différents collectifs critiquent les conséquences de cet événement sportif mondial. Peu importe le pays, les problèmes sont toujours les mêmes. On chasse les plus précaires au lieu de les aider. On construit des infrastructures coûteuses aussi bien écologiquement que financièrement, ce qui entraîne la gentrification des quartiers où elles se trouvent, et la surveillance policière est accrue. En France, toutes les populations précarisées, dont les travailleuses du sexe et les personnes migrantes, sont chassées de leur quartier par la police. Dans un article paru le 24 avril de cette année, Street Press démontre comment, sur ordre de l'État, les forces de l'ordre harcèlent systématiquement les travailleuses du sexe à l'approche des JO. Plusieurs associations d'accompagnement des travailleuses du sexe, comme les Roses d'Acier, dénoncent des opérations de contrôle et d'arrestation quasi quotidiennes à Belleville. Les personnes sans-abri dérangent elles aussi. On ne veut pas montrer la misère créée des mains même du gouvernement, alors il est évidemment plus logique de dépenser de l'argent pour les faire partir plutôt que pour les aider. Au Brésil, des favelas entières ont été totalement détruites, comme celle d'Autodromo. Et pourtant, tous ces pays clament que les Jeux Olympiques sont une aubaine pour la population. La France affirme que ces JO vont servir à dynamiser la Seine-Saint-Denis et offrir plus de structures sportives dans un des départements les plus pauvres d'Île-de-France. Pourtant, les gigantesques infrastructures construites à l'occasion des JO entraînent régulièrement gentrification et destruction massive de l'environnement. À Londres, dans le quartier de Stratford, l'un des plus pauvres d'Angleterre, le parc olympique Queen Elizabeth a été construit pour les JO 2012. Le gouvernement s'était engagé à construire 40 000 logements au loyer modéré. Si les habitants profitent d'une partie des infrastructures construites, seuls 11% des loyers sont accessibles à la population précaire de Stratford, suite notamment à l'arrivée de Boris Johnson à la mairie de Londres. Une séparation géographique existe toujours entre ce nouveau quartier gentrifié et le quartier plus pauvre de Stratford, encore en travaux. En Corée du Sud, à Pyeongchang, sur le site de Jiangsong, 78 hectares de forêt ont été rasés, des dizaines de milliers d'arbres vieux de 500 ans abattus pour un site de ski désormais vide. Au total, les JO 2020 de Tokyo ont entraîné 1,9 million de tonnes de CO2, alors même qu'il n'y avait pas de spectateurs dus au Covid. Une partie de ces immenses infrastructures finissent d'ailleurs pour une partie d'entre elles à l'abandon. Qui dit JO dit également présence policière renforcée, ce qui entraîne une hausse des violences policières, régulièrement motivées par du racisme. Amnesty International dénonce ainsi la mort de plus de 100 personnes, dont la plupart étaient des jeunes hommes noirs, à Rio en juin 2016, à l'approche des JO. La chasse aux plus précaires signifie une intensification des opérations policières de démantèlement de camps de personnes exilées. Les JO sont également une opportunité pour les différents gouvernements de mettre en place des technologies de surveillance sous prétexte d'assurer la sécurité des spectateurs et athlètes. En France, Amnesty International dénonce par exemple la mise en place de la vidéosurveillance algorithmique à l'occasion des JO. Une intelligence artificielle va ainsi évaluer si nos mouvements sont suspects ou non, avec tous les biais que cela implique dans une société raciste et validiste. Les conséquences des JO sont donc désastreuses dans chaque pays. Pour lutter contre ces problèmes communs, une partie des collectifs anti-JO sont en contact et relayent régulièrement les actions des uns et des autres. Vous pouvez notamment retrouver leurs différentes analyses et critiques sur le blog du collectif anti-JO Saccage, qui est un collectif français. Plusieurs rencontres internationales anti-Jeux Olympiques sont par ailleurs organisées. Une a eu lieu en France en 2022, dans la meilleure fac qui existe, oui, c'est celle où j'ai fait ma licence, l'Université Paris 8. Ces diverses organisations ne participeront peut-être pas aux JO, mais on attend tous avec impatience la compétition de la meilleure manif.
Merci beaucoup Akina pour cette chronique. Et tout de suite, on vous offre une pause musicale. Dans vos oreilles, c'est Nelly de Mitchell en featuring avec Jeezy.
Hello, quoi de beau? J'suis dans mes bas et mes hauts. Encore une fille dont j'aurai pas le numéro. Encore un enfant qui dira pas que j'suis son super héros. La vie n'est pas vraiment rose. Le rouge ça déteint et a beaucoup de teintes, des hauts. Dieu merci, on les crame très vite. T'as dû se vider, j'vois ton se vide. Donc logiquement, j't'évite, c'est logique. Et j'ai juré qu'ils marcheront pas sur ma tête. Même si j'ai pas les loups, j'ai un se dit donc je l'évite. Et j'ai juré qu'ils marcheront pas sur ma tête. Pour calmer mes nerfs, parfois je médite. Il faut abattre l'ennemi, parfois je me dis.
Et j'ai juré qu'ils marcheront pas sur ma tête.
Sur ma tête,
j'ai un se dit donc je l'évite. J'ai pu les lever depuis que j'ai décidé de vivre comme si j'avais délevé. Je rentre tard, je fais comme si j'avais donné. Et puis je fais comme si je savais comment faire. Payer les factures, c'est pas inné comme faisait mon père. Je regardais le ciel ou bien m'y envoler. Je veillais jusqu'à pas d'heure, je sors chez mon neblé. Je défilais pour Balmain, je fais de la randonnée. C'est pété Paris. Je veux acheter une maison sans vis-à-vis. C'est pas les gens qui me retiennent ici. Et vous me manquerez pas quand je vais bouger d'ici.
Et j'ai juré qu'ils marcheront pas sur ma tête. Même si j'ai pas les loups, j'ai un se dit donc je l'évite.
Et j'ai juré qu'ils marcheront pas sur ma tête.
Pour calmer mes nerfs, parfois je médite. Il faut abattre l'ennemi, parfois je me dis.
Et j'ai juré qu'ils marcheront pas sur ma tête.
Même si j'ai pas les lots, j'ai un se dit donc je l'évite.
C'était Nelly de Mitchell en featuring avec Jeezy sur Radio Campus Paris. Il est 19h53.
La matinale de 19h.
Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Gauthier.
Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 42e chronique sur ces ondes. Et est-ce que vous les avez vues ?
Toutes.
Oui, non ? La semaine dernière, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai 2024, il y a eu des aurores boréales. Hein, ici, à Paris et un peu partout en France. Vous les avez vues du coup ?
Non.
Non, mais il y a des questions auxquelles on préfère ne pas répondre.
Alors, si jamais, imaginez, vous les avez vues, vous auriez vu qu'il y avait des aurores boréales, au moins. Mais est-ce que vous avez vu des photos ou bien vous les avez vues de votre propre yeux ? Je vous laisse pas le temps de répondre parce que sinon, vous risquez de compromettre l'angle de ma chronique. Ou alors, répondez juste non. Vous les avez vues de vos propres yeux ?
Non !
Voilà, bah, vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Que comme par hasard, bah, vous ne les ayez pas vues ? Que moi, je les ai pas vues ? Que comme par hasard, il n'en existe que des photos ? Que des vidéos ? Que comme par hasard, elles sont toutes d'excellente qualité ? Que du 1080 Full HD 4K ? Que comme par hasard, ces aurores boréales, elles ne sont apparues que pendant la nuit ? C'est comme si tout ça, c'était un coup monté du lobby des photographes. Comme par hasard, il y avait un jour où ils étaient tous debout en pleine nuit et c'était pile dans la nuit du 10 et 11 mai 2024. C'est quand même étrange cette histoire. Moi, je me suis couché à 1h du matin, je me suis levé à 5h du matin ce jour-là et malgré ça, je n'ai pas vu l'ombre du reflet d'une petite couleur, sachant que même quand j'ai été en vacances en Norvège, je n'en ai pas vu une seule. Tout ça confirme donc ma théorie du complot personnel qui stipule que les aurores boréales n'existent pas et sont une gigantesque arnaque sortie tout droit du lobby des comptes Instagram dits aesthétiques pour gratter leurs misérables likes au détriment des rêves des enfants. Je précise que cette théorie du complot, elle est toute nouvelle, ça vient de sortir et elle m'appartient. C'est moi qui l'ai inventée et j'en réclame la paternité. Mais j'ai décidé d'être sympa et de la sortir au grand public. Maintenant, vous pouvez y souscrire, si vous voulez, mais il faudra me verser des droits d'auteur à chaque fois que vous la présenterez. Sinon, je vous attaquerai en justice. En fait, je préfère rassurer mes arrières niveau théorie du complot parce que j'avais raté le coche au moment du 11 septembre. On m'avait proposé une remise de 50% sur les théories du complot. Mais moi, je pensais pas qu'elles allaient avoir autant de succès, quoi. J'ai pas voulu prendre de risques sur mes investissements. Alors j'ai refusé l'offre. Et vous avez pas d'idée à quel point je m'en mords les doigts aujourd'hui parce que les droits d'auteur que j'aurais pu avoir... J'ai même décidé de me reconvertir en marchand de théories du complot. Il y a tellement de trucs inexpliqués. Par exemple, il y a un truc qui m'a toujours semblé louche avec ces histoires de Père Noël, de petites souris, de cloches de Pâques. Vous le répétez pas trop fort, hein, mais je soupçonne qu'il n'existe pas réellement. Et qu'en fait, ce sont des intermittents du spectacle qui jouent leur rôle. Parce que moi, j'ai regardé toutes les pubs de Noël de Coca-Cola. Et j'ai remarqué que le petit papa, là, il avait tout le temps les yeux verts, sauf... Tiens, dans la campagne de 2014, où bizarrement il a les yeux bleus. Mais dès 2015, il revient avec des yeux verts. On me la fait pas, moi. Donc, en voilà une des autres théories du complot que je vous propose à l'achat. J'en ai d'autres dans ma besace. J'ai plusieurs gammes avec des prix abordables. Hein. Ça commence à partir de 50€, le starter pack des théories du complot de Gauthier. Et ça va jusqu'à 1500€, où je vous dévoile la théorie sur laquelle j'ai le plus travaillé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore pris votre place pour le spectacle Ticket to Hell dans lequel je joue le 10 et 11 juin prochain, alors même que la billetterie est en ligne ? Ah, bizarrement, vous êtes très silencieux d'un coup, hein. Comme quoi, quand on pose les questions qui dérangent, du coup, d'un coup, on est beaucoup moins loquace, hein. En tout cas, je vais vous laisser réfléchir là-dessus et on en reparle la semaine prochaine. Salut !
Eh ben merci beaucoup Gauthier, on retient tout ça. Et la matinale c'est terminé pour ce soir. Non, mais chier. Mais on revient lundi, ne t'inquiète pas. Merci à Anouk et à PA pour l'interview, ainsi qu'à Laetitia Bizio, leur invitée. Merci à Laura pour le Zoom avec Francesca et Virgil du groupe Dopamoon. Merci à Annika et à Gauthier pour leurs chroniques respectives.
Akina.
Je bug toujours. Et merci à Joey pour la réalisation et merci à Inès pour la coordination. On revient donc lundi même heure. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts. La matinale de 19h sur Twitter et la matinale de RCP sur Instagram. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il y a après ça ?
Tout de suite, c'est l'Happy Hour scientifique et on va parler des entrepôts logistiques et notamment de Green Dock, un entrepôt qui pose souci sur les quais d'Aubervilliers.
Et bien voilà, le message est passé. Très bonne soirée sur le 93.9.